L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Eh bien, bonjour à tous. Encore une fois, nous allons retrouver l'Afrique dans tous ses états sur les ondes de la radio FM+. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sarah Kamandali de la communauté rwandaise, dont vous vous doutez pourquoi en ce moment, évidemment, nous parlons, nous adressons aussi à des Rwandais, l'anniversaire, malheureusement, la commémoration qui se prépare. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir Sarah. Bonjour Sarah, que je connais par ailleurs, je ne vous le cacherai pas.
Oui, bonjour Marie-Claude, que je connais depuis de nombreuses années. Voilà. Merci à toi de m'inviter à FM+ aussi.
Voilà, donc je disais que tu faisais partie de la communauté rwandaise hein, depuis donc de très nombreuses années. Nous nous côtoyons à Montpellier et j'aimerais que tu te présentes un petit peu plus précisément toi-même d'abord. Tu viens quand même de quelque part.
Bien sûr.
Et puis après que tu nous expliques un petit peu ton imprégnation et ton implication sur la région et sur Montpellier.
Oui. Alors, Sarah Kamandali, donc je viens du Rwanda, plus précisément du sud du Rwanda, la province de Huye, hein, anciennement Butare. C'est là où il y a l'ancrage de ma famille, paternelle et maternelle. Voilà, donc je suis arrivée en France il y a de nombreuses années, je n'oserais pas dire depuis combien d'années, en tout cas, à l'heure qu'il est, j'ai vécu plus longtemps en France que ce que j'ai vécu dans mon propre pays. Je suis arrivée, j'ai suivi en suivant un jeune homme qui était très jeune et moi qui étais aussi très jeune. Après, j'ai fait mes études, on est venu à Montpellier, je fais des études à Montpellier, donc je suis un produit de la fac de lettres, hein, comme je peux dire, comme je le dis souvent, et puis je suis une montpelliérienne de cœur, une Rwandaise de sang, et voilà, je suis donc dans le paysage de Montpellier depuis de nombreuses années, j'ai fait mes études, j'y ai fait mes enfants, voilà.
Tu as créé donc, tu as fondé quelque chose sur la cité de Montpellier. D'accord. Et donc, on peut dire aussi que tu fais partie d'un collectif.
J'ai toujours fait partie du monde associatif, au fait, à Montpellier, que ce soit avec le collectif des Africains de Montpellier, que ce soit, après, je suis bénévole à la Croix-Rouge aussi, et je fais partie de la communauté rwandaise de France, parce qu'on est une communauté rwandaise qui est nationale et je fais partie de l'antenne de Montpellier, comme on est une grande communauté à Montpellier et aux alentours. Donc on a une antenne de la communauté rwandaise de France à Montpellier, donc un ancrage dans ma communauté, dans mon pays, puisque j'y retourne chaque année et très très souvent, j'ai encore de la famille, voilà.
D'accord. Et tes enfants, ils retournent aussi ?
Oui. Mon fils est même parti là-bas. Il était rentré, comme il dit lui-même. Donc, il est resté un an. Et puis, il est revenu à cause du Covid. Mais sinon, il y retourne. Il vient d'y aller. Mon autre fils aussi. J'ai deux fils. Non, mais ils sont très, très bien. Ce sont de vrais Montpelliérains rwandais.
Sans problème avec la binationalité, quoi.
Non, on n'a aucun problème. De toute façon, le Rwanda n'a aucun problème avec la binationalité déjà. Hein. Même pour d'autres personnes qui ne sont pas rwandais. C'est-à-dire qu'il y a une politique, n'importe qui veut devenir rwandais peut devenir rwandais.
Ah, c'est bon à savoir. Hein.
Voilà. D'abord, tous les pays vont au Rwanda, pratiquement tous les pays peuvent aller au Rwanda sans visa. Il n'y a pas de visa pour rentrer. On arrive à l'aéroport, on prend son visa gratuit et puis on est dans le pays. Voilà.
Ah, c'est super ça, c'est bon à savoir. Tiens, ça ouvre des perspectives. Voilà. Et donc, il y a vraiment une libre circulation. Par contre, tu parles parfaitement français, donc c'est un pays francophone, pas francophone, anglophone. Faut m'expliquer un peu là.
Alors c'est un pays à la base qui était c'est déjà un pays monolingue, donc différemment d'autres pays de l'Afrique.
Ça c'est vrai que c'est
on est monoethnique, contrairement à ce qu'on peut croire. Donc monoethnique puisque parce que de toute façon on parle la même langue, on est sur les mêmes territoires. C'est un petit pays, hein, le Rwanda, c'est un pays qui est aussi grand que la Bretagne, hein, c'est c'est 26 000 km², donc avec une même langue, une même culture, on mange la même chose. Et ben du coup, voilà, qu'est-ce que je rajoute encore?
Et ben non, parce que je m'interrogeais sur la langue, parce que j'avais cru entendre que le président parlait anglais.
Bah donc au fait, la langue du Rwanda, c'est le Kinyarwanda, c'est-à-dire que tout le monde parle Kinyarwanda. Et après, bon, on a eu une brève colonisation allemande qui s'est arrêtée après à la défaite, lors de la défaite,
des Allemands.
Ouais.
Et à la guerre après, de 14 ou à la guerre de...
Oui, c'est la guerre de 14.
La première guerre.
La première guerre. Et ensuite, on a eu donc les Belges, notamment les Wallons, qui ont amené le français. Mais du coup, comme l'enseignement, tout ça a été tenu par les Belges, l'administration aussi. Jusqu'à l'indépendance en 1962. Mais donc voilà, il y a une influence de langue française. Mais à savoir que ce n'est pas comme l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire que les personnes, on ne parle pas français comme ça. On n'a jamais parlé français ni anglais actuellement comme ça. Donc on parle Kinyarwanda.
D'accord. C'est la langue nationale, c'est celle-là.
Voilà, c'est la langue nationale.
Okay.
Et puis en fonction des études qu'on fait, ben voilà, on va parler anglais ou français. Bon, quant à la langue anglaise, c'est-à-dire que on sait très très bien qu'après après le génocide, donc quand le FPR a libéré le pays, parce que du génocide, est venu, ben voilà, le président, une élite, c'était des personnes qui venaient donc d'Ouganda, c'était des réfugiés qui étaient, la plupart des personnes qui sont arrivées étaient réfugiés en Ouganda, donc l'Ouganda c'est un pays qui est juste à côté. Et qui est anglophone, donc dont la langue d'usage, étrangère est l'anglais. Et donc, il y a cette influence-là. N'empêche que, quand même, il y a vraiment beaucoup de francophones au Rwanda. Et bon, la plupart de francophones, maintenant, se sont mis à l'anglais. Mais on peut dire que, au Rwanda, on peut aller n'importe où, on va se faire comprendre en français quand même.
D'accord. Tout à fait. Alors, ce que je retiens de tout ça aussi, puis concernant un petit peu la connaissance qu'on peut avoir de l'Afrique, c'est que finalement, quand on parle par exemple entre autres d'Afrique de l'Ouest, qui est une région, une zone plutôt francophone, même s'il y a des pays, le Ghana, tout ça, qui sont anglophones. Donc, et c'est vrai que à ce moment-là, ce qui est proclamé, la langue officielle, c'est le français. Disons que c'est le français souvent dans ces pays-là, alors que au Rwanda, vous avez votre langue à vous, qui est la langue nationale.
Au fait, pour prendre un exemple d'une administration, par exemple, des personnes qui rentrent, par exemple, si je rentre au Rwanda, je suis francophone, je maîtrise le français, je suis très très mauvais, j'ai mauvais en anglais, mais donc je peux arriver dans une administration où, par exemple, il y a une prédominance de, on va me demander de rédiger un rapport en anglais, ou en français ou en Kinyarwanda. Donc même quand on passe des concours, en fait, on choisit la langue dans l'administration dans la langue dans laquelle on est à l'aise pour s'exprimer. Donc on peut passer en anglais, en français ou en Kinyarwanda. Donc on trouve toujours, c'est vraiment pour l'instant le Rwanda en tout cas essaie de mixer les trois, de ne pas notamment avec les relations avec la France qui se sont améliorées. C'est vrai qu'il y a eu un froid par rapport au français.
Il y a eu une prise de position récente de votre président, du président du Rwanda.
Voilà, donc auparavant, c'est vrai qu'on a eu un froid, une longue période de froid entre le français, entre la France et le Rwanda. Il y a eu une très longue période, il n'y a pas eu d'ambassadeur français de France au Rwanda. Il y a toujours eu un ambassadeur du Rwanda
Mais on pouvait toujours quand même, malgré tout, on pouvait quand même se rendre au Rwanda, ce que tu disais tout à l'heure, sans visa, enfin comme
non,
ça.
Non, la gratuité du visa, elle date, je pense que c'est progressif, ça fait environ 3, 4 ans, 5
D'accord.
ans.
Oui.
Voilà, donc c'est la libre circulation, quoi.
Ça a été ouvert. Après. Ouais.
Avant, c'était pour les Africains, et après, ça a été étendu, c'est étendu.
D'accord. Bon, là, je retiens bien ça, quand même, c'est intéressant.
Non, mais oui, vous prenez votre billet, vous partez, on ne vous demandera rien du tout, vous arrivez à l'aéroport, on vous tamponne votre
c'est
passeport.
Pas comme, c'est pas casse-tête comme actuellement avec un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, où même les autochtones, enfin, les étudiants, les résidents ici et tout ça, se demandent toujours s'ils ont besoin de quoi ils ont besoin pour partir, même eux, hein, même, même les nationaux. Voilà. Oui, alors donc, tout à l'heure, tu parlais de cette grande communauté rwandaise que, voilà, dont on reparlera peut-être aussi tout à l'heure concernant les événements à venir. Et ça a toujours existé, cette grande communauté, ou est-ce qu'elle elle est partie un petit peu de... Où est-ce que l'origine, enfin c'est la question que je me pose moi, où est-ce que l'origine est partie justement à partir du génocide, où il y a eu quelque chose qui a dû s'ancrer beaucoup plus en France par exemple. Alors, là on parle de la France.
Oui, on parle de la France, mais à savoir qu'il y a la plus grosse communauté rwandaise et se trouve en Belgique, donc chez le pays, dans le pays colonisateur, hein, le dernier pays qui a colonisé le Rwanda. Donc il y a eu, voilà, il y a eu d'abord une diaspora des personnes qui allaient faire des études. Et ensuite, il y a eu la diaspora quand même qui est partie dans les années, à savoir qu'il y a des diasporas, des personnes qui sont parties depuis voilà, les indépendances en 62, parce que quand même, il y a eu une première chasse à l'homme, donc il y a eu des Tutsis et des massacres qui ont été réfugiés et qui sont partis ailleurs. Et ben, le Rwanda, les Rwandais, c'était les premiers réfugiés des Nations Unies. C'est le premier pays africain où il y a eu des premiers réfugiés pris en charge par l'OHCR, le commissaire pour les réfugiés. Donc, il y a eu des personnes qui... Et puis, il y a eu des départs qui sont partis en 66, parce qu'à chaque fois, il y avait des pogroms. Il y avait voilà, la chasse aux Tutsis, puisque bon, voilà, la dernière fois, vous avez bien écouté l'histoire de... Marcel a assez bien raconté. Je ne vais pas revenir sur l'histoire du Rwanda, mais que tout le monde peut trouver sur Internet ou dans les livres. Du coup, voilà, il y a eu plusieurs chasses à l'homme au Rwanda qui ont fait qu'il y a eu, des immigrations. Donc, de 59 à 62, en plus en 66, en plus en 73 avec le basculement du régime Kayibanda Habyalimana. Et après, bien sûr, il y a eu beaucoup d'exilés aussi par rapport au génocide perpétré contre les Tutsis. Voilà.
Donc ça a donné naissance quand sentiment de créer cette... Parce que Marcel avait bien expliqué, avait bien montré quand il était venu. Donc Marcel...
Kabanda, président d'Ibuka.
Voilà, président d'Ibuka France. Voilà, et qui avait bien expliqué un peu l'engagement, etc. Alors moi, ce que je retiens de ça aussi, concernant justement peut-être la vision de l'Afrique, c'est qu'au fond, quand on parle de la... Je reparle moi surtout de l'Afrique de l'Ouest, c'est celle que je connais le mieux. On voit bien que là, on a quand même une histoire un peu originale, avec aussi des soubresauts, avec des rebondissements, etc., qui sont beaucoup moins... c'est peut-être plus dans les engagements politiques que dans tout ce qui est militaire, etc. Je pense à tous ces coups d'État militaires d'Afrique de l'Ouest actuellement. On voit bien quand même qu'il y a une originalité un petit peu du pays et de son histoire par rapport au pays alentour, au pays voisin.
Mais nous, enfin, les pays voisins, on a, par rapport aux pays voisins, par exemple, on a le Kenya, hein, puisqu'on est, le Kenya. On a l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi, et le Grand Congo, avec des histoires qui se passent dans le Kivu, du Kivu. Donc, les coups d'État, actuellement, l'actualité, quand même, elle est stagnante. Dans ces pays-là, il n'y a pas eu de coup d'État. Il y a des alternances, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas forcément très bonnes comparées au coup d'État militaire qu'il y a ailleurs. Mais bon, c'est quand même des régions qui ont été déstabilisées, qui sont un petit peu... c'est pas non plus la stabilité.
En même temps, c'est aussi les soubresauts politiques de tout pays. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que on est en train de voir qui dépend de qui ou qui veut lutter contre qui, entre parenthèses, contre les colonisateurs, etc. Là, on n'est plus là, on est dans une histoire qui est propre, vraiment, au Rwanda. C'est le sentiment m'évoque. Il y a quand même votre propre histoire, avec votre originalité, que ce soit de la langue, que ce soit de la culture, et que ce soit dans l'histoire, l'histoire politique et les événements politiques. Alors, Sarah, on a beaucoup causé là, c'est bien, parce que moi, j'ai appris plein de choses, merci aussi. J'espère que les auditeurs auront auront aussi appris. Et on va faire une petite pause musicale de quelque chose que tu nous as choisi.
Voilà.
Qui est donc, c'est une...
Je vais expliquer.
Oui.
Donc, c'est une chanson. C'est une chanson que... C'est une chanson, au fait, c'est une dame qui a composé cette chanson. C'est une dame de l'exil. C'est une chanson qui parle plutôt vraiment beaucoup aux personnes qui étaient à l'extérieur du Rwanda. Donc, c'est une femme qui parle de quand elle arrive. Vraiment, c'est une chanson qui a été composée. Elle a composé juste après le génocide. Même pas d'accord. Même pas vraiment. Donc, chaque exilé, chaque personne qui avait de la famille au Rwanda, personne... se reconnaît dans cette histoire-là. Donc, elle raconte comment elle arrive à Kigali. Et moi, c'est mon histoire aussi, puisque moi, je suis arrivée à... Donc, le génocide, l'UFR a stoppé le génocide en juillet 94. Et moi, j'étais au Rwanda en octobre 94. Jean-Baptiste, que tu connais, était au Rwanda en juillet. En juillet, le génocide, il est passé par l'Ouganda. Parce qu'au fait, on n'avait pas de nouvelles de des familles. Il n'y avait pas de téléphone. On ne savait pas si les gens étaient morts, si étaient vivants. Donc, moi, je suis partie en octobre. Et c'était vraiment la désolation. Du coup, comme il y avait pas, on devait passer par des pays voisins pour pouvoir rentrer dans le pays. C'était tout en périple, avec de l'insécurité. Comme on ne peut pas l'imaginer. Et du coup, c'est une chanson qui raconte une dame qui arrive, qui dit, ben voilà, j'arrive dans le Rwanda et puis je ne sais plus où je suis. Parce qu'évidemment, on arrivait dans le village natal, il n'y avait plus de maison, il n'y avait plus rien. Là, c'est vraiment... Et voilà, donc elle raconte comment elle arrive et que les personnes à qui elle pourrait demander ce qui s'est passé ne sont pas là. C'est le désarroi, c'est le désastre. Parce qu'on parle de la vie des rescapés, on parle des personnes... Mais on ne parle pas assez. Bon, aussi, c'est nous qui écrirons notre histoire. Parce que et une personne qui est là, moi, j'étais à Montpellier à ce moment-là. Il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses à Montpellier pendant cette période-là. Mais parce qu'on agissait en folie, au fait. On ne savait pas ce qu'on faisait. On organisait des conférences, on a fait venir des personnes. Et puis, il y avait la désinformation aussi. Parce que bon, on disait qu'il n'y a pas de génocide pendant que nous, on savait que les personnes se faisaient massacrer. Voilà, il y avait un tas de choses qui faisaient que... On était complètement déstabilisés.
Voilà, donc déstabilisez-vous et on va essayer de se restabiliser après. Après ce morceau qui nous évoque quand même des grands bouleversements.
Elle dit qu'est-ce que je fais, à qui je vais demander, parce que les personnes à qui je pourrais demander ne sont plus
ne
là.
Ne sont plus là. Voilà, grande émotion. À tout à l'heure.
Yeah.
Eh bien, nous revoilà sur ce plateau avec donc Sarah, qui originaire du Rwanda, qui nous expliquait, qui nous a appris pas mal de choses concernant son pays et qui nous a tendu une perche en nous expliquant que lors du génocide, elle se trouvait en France puisqu'elle est française en France depuis très longtemps et qui nous a aussi expliqué que cette musique composée évoquait l'émotion de justement quand on revient au pays et qu'on ne sait pas et que tellement de gens ont disparu et qu'on ne peut pas échanger avec qui on devrait sur tout ce qui s'est passé. Donc Sarah, voilà. Et donc à ce moment-là, tu es revenue au pays. Tu nous as expliqué quelques mois après la fin.
Oui. Moi, je suis revenue au pays en octobre. Donc j'étais au pays en octobre 94, octobre, au mois d'octobre. Et j'y ai passé 2 mois. Donc octobre, novembre. Donc je suis revenue début décembre. Voilà, j'étais parce que du coup, de juillet, enfin pendant d'avril, parce qu'on n'a pas vécu les exilés, nous les autres exilés, nous n'avons pas vécu d'avril à la fin, même après. Mais du coup, cette musique, elle évoque justement le retour et puis la désolation face à ce qui se passait. Voilà. C'était très, très dur.
Oui, c'est sûr que ça a été dur aussi pour vous tous qui n'étiez pas là-bas avec... Et cet inconnu, avec cette culpabilité peut-être aussi.
Culpabilité, enfin, voilà. Et puis cette peur, parce qu'au fait, on se dit, quand on a toutes les personnes... alors moi, quand je suis partie là-bas, je ne demandais même plus... à chaque fois, je ne demandais plus qui est mort, qui n'est pas mort, parce que j'avais peur qu'on me dise tel est mort. Et bien, effectivement... du coup, c'était. Et puis on se disait, nous-mêmes, on serait morts. En fait, on était des morts potentiels. On regardait nos enfants. Mmh. Nos enfants, on voyait des cadavres. Tu sais, mais si on était là. Non, mais il y a vraiment. Moi, j'ai perdu. Toutes les personnes de ma génération, moi, les personnes sont mortes. J'ai perdu des amis, je ne sais même plus qui c'est tellement il y a obstruction. Quoi.
C'est sûr que ça demande beaucoup de courage. Et que pour moi, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais quand même que cette communauté importante en France, rwandaise importante, qui quand même est très présente justement dans les manifestations, nous allons en parler, je pense que c'est aussi, ça répond aussi à ce besoin essentiel finalement de aimons-nous vivants, comme dit l'autre, et surtout réalisons que nous avons la chance d'être là et qu'on a des choses à perpétuer pour ceux qui ne sont plus là. Quoi, hein. Donc, c'est vrai que c'est très important. Alors, actuellement, on est quand même sur une grande commémoration. Tu peux nous en parler un petit peu, tu peux nous évoquer un petit peu la commémoration, puis on va parler aussi des cérémonies, etc. aussi. Hein.
Voilà. Oui, là on est à la 30e commémoration, c'est-à-dire qu'il y a des commémorations chaque année. Et au mois d'avril, la semaine du 7 avril, la commémoration, enfin normalement les commémorations, les recueillements durent 100 jours, puisque le génocide a duré 100 jours. C'est arrêté en juillet. Donc c'est des moments, c'est des moments de pause dans la vie de chacun, c'est des moments où on essaie de se souvenir, on se souvient tous les jours on y pense. Je pense qu'il n'y a pas un Rwandais qui ne pense pas au génocide, une fois par jour au moins. C'est pas possible. Donc on y pense. Mais bon, là, c'est le temps qu'on se donne. Et puis aussi, cette commémoration a été pensée, l'instauration de cette date, ça a été pensé pour que les personnes puissent revaquer pendant le reste de l'année à construire le pays, parce que quand même le pays, il était complètement détruit en 94. Et là, ce qu'on voit au Rwanda actuellement, ben, c'est un autre pays. Ça n'a rien à voir à ce qu'il y avait il y a 30 ans. Donc du coup, la commémoration permet donc de commémorer, de prendre un temps. Et après, donc, on dit, on va se souvenir, mais en se construisant.
Voilà, et de célébrer, célébrer cette reconstruction.
Voilà, il faut se construire, mais il ne faut pas sombrer, parce que sinon, c'est trop... si on avait fait le choix de sombrer, on aurait sombré, hein, de toute façon. C'est pas... Mais voilà, donc la commémoration, c'est très important. On est à la 30e, c'est-à-dire c'est une génération qui vient de passer. C'est une génération, une grande majorité des composants, la composante de la société rwandaise actuellement n'a pas vécu le génocide, il était très jeune. Donc aussi, c'est lui permettre de dire, mais voilà, on passe aussi une étape. Là. On est en train de passer une étape, mais on passe, passer le flambeau, mais le souvenir, il doit rester parce que pour qu'il n'y ait plus du... Voilà, pour que...
Comme pour tous les génocides, à un moment, faut pas faire l'impasse. Je crois que même les générations qui ne l'ont pas vécu doivent savoir, doivent être conscients. Et puis, il doit y avoir aussi une transmission par ceux qui l'ont vécu. Et je pense qu'effectivement, au pays, ça ne doit pas être évident entre les communautés, quoi. Parce qu'il y a quand même eu ceux qui ont persécuté, qui ont éliminé les autres, quoi. Donc, ça doit quand même demander effectivement une sacrée
pêche.
C'est tous les jours, oui,
tout à fait. Tous les jours, Marie-Claude, tous les jours, parce que imagine-toi, parce que on ne s'imagine pas. Moi, je suis rwandaise, et je connais mon pays, je sais comment ça se passe, je sais comment les gens vivent. Imagine-toi, en 100 jours, le minimum qu'on dit, c'est 800 morts.
Oui.
800 000 morts.
800 000 morts, oui.
Le minimum, ça c'est le minimum reconnu.
C'est ce qui a été.
Et au Rwanda, on dit que c'est 1 million, un peu plus d'un million.
Alors, en 100 jours.
En 100 jours, sur un petit territoire, c'est vraiment où les gens vivent ensemble, sur la même colline, on ne peut pas se cacher ni rien, on se cache difficilement. Ça veut dire que même les enfants de 12 ans, c'était un amusement. Les images, tout le monde a vu les images. Celui qui ne veut pas voir, évidemment, ne voit pas. Mais c'est-à-dire que c'était la chasse à l'homme, avec des gourdins, avec tout ce qu'on pouvait. Et on tuait. Ils allaient au travail, comme ils disaient. Mais ça, donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, oui, à un moment donné, il a fallu sortir les bourreaux de prison. Parce qu'il y avait 5000 personnes, à un moment donné, dans les prisons rwandaises. Ces personnes-là, et ben voilà, il y avait les tribunaux gachacha populaires. Dès que les personnes venaient avouer, en montrant là où ils avaient enterré les personnes, et ben la peine était commue au fait. La personne retournait dans son village. Il y a eu des retours du Congo aussi, des personnes qui sont rapatriées, qui sont revenues dans leur village. Mais actuellement, oui, moi j'ai vu des gachacha où les gens, avant chaque année, je partais au Rwanda au mois d'avril. Après, j'étais saturée, même mes propres enfants, ils ont assisté à ça, ils ont suivi des troupes qui allaient déterrer des personnes qui étaient, on disait, ben voilà, cette famille, elle est là. Et moi, j'avais mes deux garçons, tous les enfants couraient, tout le monde suivait, on déterrait les corps. Voilà, pour te dire que, effectivement, on ne peut que vivre avec les bourreaux. Et là, vraiment, ceux qui payent la lourde tribu, ce sont les rescapés, bien sûr. Parce que les rescapés, on leur a demandé l'impossible. Et ils l'ont fait. Ils le font.
Sacré courage, et on comprend pourquoi la communauté rwandaise en France est si soudée et si présente chaque année, année pour les commémorations. Alors malheureusement, le temps passe, et Sarah, c'est magnifique que tu aies pu déjà témoigner de tout ça. Donc simplement, on va rappeler, alors tu peux nous rappeler qu'il va y avoir une cérémonie importante à Montpellier.
Le 11 mai, donc la communauté rwandaise de Montpellier, la communauté rwandaise de France de Montpellier, donc chaque Rwandais, On est honoré, on est plus qu'honoré de pouvoir avoir une stèle. Hein, donc voilà, on remercie une stèle. On remercie Monsieur le maire, hein, évidemment, et toutes les personnes qui nous ont accompagnés à l'aboutissement de ce symbole, hein, au sein de Montpellier. Moi qui suis à Montpellier, qui est un ancrage pratiquement définitif, parce que je ne sais pas comment ma vie pourrait être dissociée de Montpellier, étant donné, même si je rentre un jour au Rwanda, il y aura toujours Montpellier. Du coup, c'est un honneur pour moi, de pouvoir, à n'importe quel moment, sans attendre le 7 avril, sans attendre le mois d'avril, de me dire, je vais à la stèle, je vais m'asseoir, je vais penser aux miens, ou alors on a encore des superstitions, hein, on se dit,
D'accord, donc le 11 mai, vous êtes tous conviés, c'est à 14h.
Le 11 mai, vous êtes tous conviés.
Grande cérémonie avec l'ambassadeur,
avec monsieur l'ambassadeur,
monsieur le maire, et beaucoup de personnalités, Marcel Cabanda, plein d'autres personnalités, et tous nos amis rwandais, en tout cas de Montpellier, de la région, et même d'ailleurs.
Et on compte avoir tous nos amis et tous les Africains, nos frères et sœurs africains à nos côtés.
Voilà. Donc, je vous dis à la semaine prochaine avec notre portrait. Là, c'était Sarah qui a bien voulu témoigner. Merci Sarah, merci, de Rwanda. Et puis, merci RFM+, d'accueillir l'Afrique dans tous ses états. Et merci à Yann et sa petite équipe là, de techniciens pour avoir assuré la technique de cette émission. Au revoir, à bientôt.
Au revoir.
L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.